Ce matin, on fait une pause dans notre série dans Jean, et puis on veut se préparer à célébrer Noël, puis on en a besoin. On va en avoir besoin, surtout si on est un petit peu plus en confinement. On sait au moins que Dieu n'est pas confiné, puis il est avec nous. En fait, c'est l'idée même du nom Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, Dieu est avec nous en toutes circonstances. Ce matin, on se prépare à fêter Noël, puis une idée qui est, à mon avis, vraiment cool avec le christianisme, c'est l'idée que Dieu n'est pas resté invisible. Dieu, par définition, est Dieu, il est invisible, il est plus grand que nous. Mais le christianisme nous révèle que Dieu s'est fait homme. Il est devenu un être humain, il a marché parmi nous. Et c'est ça qu'on célèbre à Noël. Les chrétiens, on n'a pas la date exacte de la naissance de Jésus. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il est né. Mais les chrétiens célèbrent depuis 2000 ans le fait que Dieu s'est incarné, qu'il est devenu un homme, qu'il a marché parmi les hommes, qu'il est devenu un être humain. Et ça, c'est vraiment une joie incroyable. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible est divisée en deux sections. La plus grande section, c'est l'Ancien Testament. La deuxième portion, c'est le Nouveau Testament. Et puis, il y a 400 ans entre ces deux testaments-là. Entre ces deux portions-là de la Bible, il y a 400 ans de silence. Puis on pourrait dire que l'Ancien Testament annonce Noël, puis le Nouveau Testament nous raconte Noël. L'Ancien Testament annonce la venue de Jésus-Christ, Dieu fait homme, et le Nouveau Testament nous raconte Jésus-Christ, nous fait découvrir sa personne et son œuvre. Et c'est ça qu'on va aller explorer ce matin ensemble. Ce matin, on va regarder un très court passage de l'Ancien Testament qui nous aide à comprendre ce qu'on célèbre à Noël. On va aller dans un mot de prière. Et puis Esther va venir nous lire deux passages des Écritures. Bien Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence ce matin, alors qu'on se prépare à célébrer Noël. Encore une année avec cette pandémie, chacun d'entre nous de tout cœur, on aimerait tellement être sorti de là. En fait, la terre soupire, Seigneur, après la délivrance que tu peux nous donner. Viens nous libérer de cette pandémie. Viens nous donner, Seigneur, de pouvoir aller les uns vers les autres et prendre soin des cœurs les uns des autres. Être là. Et donne-nous, Seigneur, d'être créatifs dans cette période des fêtes, vraiment pour faire cet effort, pour aller prendre des marches ensemble, pour prendre soin les uns des autres. Comme toi, Seigneur Jésus, tu t'es incarné et t'es venu marcher parmi nous. Et c'est ça qu'on va célébrer à Noël. L'incarnation de Dieu le Fils qui est devenu homme. Viens nous parler ce matin, Seigneur, de cette lumière que tu es venu apporter dans les ténèbres de nos cœurs et de nos vies, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.
Bonjour. Alors, on lit dans deux passages de la Bible ce matin. Premièrement, dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe au chapitre 8, verset 23, jusqu'au chapitre 9, verset 9. Et dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 4, les versets 12 à 17, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Ésaïe 8, 23 jusqu'à 9, 9, et puis Matthieu 4, 12 à 17. Commençons par Ésaïe. Malgré les ténèbres, mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donnez à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Et dans Matthieu 4, on lit, « Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. »
Merci, Esther. Est-ce qu'il y a des enfants ce matin? Il y en a deux ou trois, ou il y a des grands-enfants? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés marcher en forêt la nuit? Qui s'est déjà retrouvé en forêt la nuit? Peut-être pas en hiver, parce qu'ici au Québec, c'est quand même spécial. On a la neige l'hiver, puis ça change tout. Mais en forêt la nuit, pas de neige. C'est sombre. C'est très, très sombre. Puis ça peut être extrêmement dangereux. Lorsqu'on va se promener, mettons, on va à la chasse, on veut aller faire de la photo au lever du soleil, c'est extrêmement dangereux de marcher dans la forêt parce que tu peux t'enfarger dans n'importe quoi. Puis dans ce temps-là, là, je ne le mettrai pas sur mon fond parce que Antoine va faire des photos puis il va mettre ça sur Internet. Fait que je vais me mettre à l'abri de ça, n'est-ce pas? Mais quand on s'en fait en forêt, hein, qu'est-ce qu'on fait? On se met une lampe. Puis c'est très, très, très précieux parce qu'autrement, tu pourrais te blesser. Tu ne vois rien. Ou peut-être que vous êtes juste à la maison, les enfants, le soir, quand il fait complètement noir. Il y a quelque chose hein, d'un petit peu comme c'est inquiétant. Puis là, si tout d'un coup, tu allumes une lampe de poche, peu importe, tu allumes une lampe, on dirait que tu peux chasser le noir. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? C'est un petit peu comme lorsqu'on joue à la tag. Quand tu joues à la tag, qu'est-ce qui se passe? Tu cours après quelqu'un et la personne se pousse juste pour ne pas être touché. Mais quand tu allumes une lumière, c'est la même chose qui se passe. C'est comme si la noirceur se sauvait face à la lumière. C'est ça que Jésus est venu faire lorsqu'il est venu dans le monde. Jésus est venu amener la lumière de Dieu dans les ténèbres de nos cœurs. Dans des endroits sombres dans nos vies, dans nos cœurs, même dans nos sociétés, pour nous éclairer. Et ce que Jésus venait faire, il venait chasser ces ténèbres-là de nos vies en amenant la lumière de Dieu. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. La grâce de Dieu est la lumière de Jésus-Christ qui vient chasser les ténèbres où nous vivons pour nous remplir de joie en lui. Je répète ça. La grâce de Dieu est la lumière de Jésus-Christ qui vient chasser les ténèbres où nous vivons pour nous remplir de joie en lui. La grâce de Dieu est une lumière qui vient dans nos ténèbres. J'ai mentionné au début, on est dans l'Ancien Testament, Esther a lu une portion de l'Ancien Testament, et on retrouve ce même passage-là dans le Nouveau Testament. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, il y avait un peuple qui était là, qui s'appelait le peuple d'Israël, et Dieu s'était fait connaître à ce peuple-là. Une des choses que tu découvres quand tu lis la Bible, c'est que tu peux connaître certaines choses sur Dieu juste en regardant le soleil, en regardant les arbres, en regardant la biologie. Tu dis, OK, je pense qu'il y a un créateur, il y a un designer, il y a quelqu'un derrière tout ça. La nature peut te révéler ces choses-là. Mais c'est assez limité. Tu ne connaîtras pas beaucoup de choses sur Dieu. Tu vas plutôt commencer à spéculer, à imaginer Dieu. Tu vas commencer à faire des dessins et avoir une espèce de Dieu imaginaire. Ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu a voulu se faire connaître plus qu'à travers la nature. J'aime l'été, m'asseoir le soir avec un petit feu de camp, puis à un moment donné, commencer à contempler le ciel. Puis pour moi, les étoiles dans le ciel me parlent de Dieu. Mais quand même, elles ne me disent pas grand-chose sur Dieu. Elles me disent que Dieu est grand et qu'il est magnifique. Mais je n'entends pas sa voix au-delà de ça. Et ce que les Écritures nous disent, c'est que Dieu a fait le pas de venir vers nous pour se faire connaître à nous. Et dans l'Ancien Testament, Dieu s'est fait connaître à un peuple en particulier, qui est le peuple d'Israël. Et ce peuple-là devait briller, en principe, pour faire connaître Dieu à toutes les nations de la terre. Et Dieu s'est fait connaître personnellement. Déjà, Israël, dans l'Ancien Testament, avait une vision de Dieu qui était complètement différente de toutes les autres nations sur la terre. On appelle ça le monothéisme. Israël croyait dans un Dieu unique qui est une personne qui parle et qui se fait connaître. Alors que tous les peuples environnants, et en fait tous les peuples de la terre, croyaient dans une multitude de dieux qu'ils avaient essayé d'imaginer en s'inspirant de ce qu'ils voyaient sur la terre. Et donc, Israël était très, très, très distinct en faisant connaître ce Dieu unique-là. Et dans l'Ancien Testament, on a des passages où on voit cette idée qu'un jour, la lumière de Dieu va dépasser Israël et va venir faire connaître Dieu à toutes les nations de la terre. On lit dans Ésaïe 9:1, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre, une lumière resplendit. » Et si on va juste un petit peu avant, au verset 23 du chapitre 8, on lit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Entendez par ténèbres l'ignorance de connaître Dieu, puis tout ce que ça implique de vivre sans Dieu. Si vraiment il y a un Créateur qui a créé les hommes, s'il y a vraiment un Créateur qui a organisé la nature de manière aussi splendide et magnifique, il a sûrement pensé à autre chose que la nature. » Il y a peut-être des principes de vie à nous donner. Il y a peut-être des concepts, des idées comme l'amour à nous communiquer, la justice, la bonté, la charité. Et quand vous entendez ténèbres ici dans Ésaïe, pensez à tout ce que ça implique de ne pas connaître Dieu. Puis d'avancer à tâtons en disant, les étoiles me disent que Dieu existe, à partir d'ici je vais l'imaginer. Et Dieu voulait se faire connaître plus que ça. Dans Ésaïe 8, 23, on lit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, qui étaient des territoires au nord d'Israël, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. » Les païens, qu'on appelle des fois, dépendamment de votre traduction, les gentils, ce sont tous ceux qui n'étaient pas des Juifs. Et donc, Dieu est en train d'annoncer dans l'Ancien Testament, 400 ans avant la venue de Jésus, qu'un jour viendrait où Dieu viendrait visiter non seulement Israël, mais ceux qui ne sont pas d'Israël, les non-juifs, et viendrait se faire connaître à eux, les nations qui marchent dans les ténèbres. C'est vraiment intéressant parce que lorsque Jésus est venu, déjà, ceux qui n'étaient pas juifs étaient attirés par le Dieu de l'Ancien Testament. Les croyances juives étaient très, très, très populaires à l'époque dans l'Empire romain. Beaucoup de gens étaient attirés par cette idée que, OK, dans le fond, c'est peut-être pas 2000 dieux qui gouvernent la terre, qui sont toujours en train de se chicaner, les dieux des Grecs, qui finalement, c'est juste comme des humains aussi gentils et méchants que les humains, mais avec des super pouvoirs. Puis les Juifs arrivaient et disaient, non, il y a un être, un seul être qui est au-dessus de tout, et lui, il est parfaitement bon, parfaitement pur. Tout ce que tu vois de bon sur la terre, dans la nature ou chez l'être humain, ça reflète ce Dieu-là. Ça nous parle de ce Dieu-là. Et donc, lorsque Jésus est venu, déjà, cette idée de l'Ancien Testament était très attirante pour les gens autour qui disaient, « OK, peut-être que ça fait plus de sens l'idée qu'il y a un seul Dieu qui existe. » Et donc, ces nations qui ne connaissaient pas Dieu commençait à être attiré au seul vrai Dieu. Et je vais vous faire remarquer quelque chose ici. La manière que ça nous est décrit, c'est une lumière qui vient dans nos ténèbres. Donc, ce n'est pas une petite lumière qui est à l'intérieur de moi, hein, un petit tison que je vais juste partir puis allumer, puis je vais essayer de l'allumer. Il est tout là, il est à l'intérieur de moi. La lumière, selon la Bible, n'est pas à l'intérieur de moi. Elle vient de Dieu. Beaucoup de religions vont vous dire, non, la lumière est en toi. Il faut juste que tu la laisses vraiment s'enflammer. Il faut juste que tu la nourrisses. Tout ça, c'est tout en toi. Les Écritures nous disent que la lumière, celle qui nous sauve, celle qui nous transforme, celle qui nous conduit dans l'amour de Dieu, vient de Dieu. Et vous avez juste avec ça une illustration de ce que c'est la grâce. La grâce, c'est une faveur, un cadeau qui n'est pas mérité. C'est quelque chose que Dieu donne gracieusement, gratuitement. Et l'image qu'on a ici, c'est celui d'êtres humains qui sont pris dans les ténèbres de leur vie, qui essaient de bien faire, mais qui avancent à tâtons, et qui sont comme moi si j'étais dans ma forêt de nuit, mais sans ma lampe frontale. Eh boy, je te dis, j'avancerai pas vite. Tranquillement, parce que chaque pas, dans une forêt là, très dense, chaque pas peut être dangereux. Et si quelqu'un venait tout d'un coup, puis je voyais une petite lumière qui apparaissait au bout, là, qui est en train de descendre la montagne, la première chose que je fais, vous savez c'est quoi? J'arrête de bouger, puis j'attends qu'il vienne à moi. C'est la grâce. C'est ça la grâce. C'est la lumière de Dieu qui vient nous visiter. Et une des choses que tu as besoin de réaliser si tu veux vraiment recevoir ce que Dieu a pour toi à Noël, c'est de réaliser que cette lumière-là n'est pas en toi. Elle doit venir de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a rien de bon, puis que tu ne peux rien faire de bien, puis que tu n'es pas une personne noble. Dieu a créé tous les êtres humains à son image. L'être humain ressemble à Dieu. Mais Dieu nous dit qu'on est tellement égaré qu'on ne trouvera pas la lumière en nous. Et si tu veux recevoir vraiment le sens de Noël cette année, bien, il faut renoncer à cette idée que tu vas chercher premièrement en toi-même, et tu vas plutôt te tourner vers celui qui t'a créé et qui peut te conduire dans la lumière. La grâce est une lumière qui vient nous visiter dans nos ténèbres. Maintenant, regardez bien mon deuxième point. La grâce nous conduit à la joie dans la présence de Dieu. Et c'est un élément super important. Regardez les versets 1 et 2 dans Ésaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Qu'est-ce que je veux souligner ici? C'est que lorsque Dieu vient nous visiter avec sa lumière, il ne vient pas simplement avec sa lumière pour exposer notre pauvreté. La manière que ça nous est dépeint dans le passage, tu as des nations qui ne connaissent pas Dieu et qui vivent dans un certain chaos. Mais ce que Dieu fait lorsqu'il vient les visiter, ce n'est pas simplement d'exposer leur pauvreté, d'exposer leur misère. Dans le langage biblique, d'exposer leur péché. J'ai dit tantôt, pour recevoir ce que Dieu veut nous offrir à Noël, il faut que je réalise que je suis dans les ténèbres. Il faut que je réalise que j'ai besoin de quelqu'un qui est plus grand que moi, qui va me conduire vraiment dans la lumière. Donc, ça prend une certaine humilité. Et lorsque tu commences à connaître le Dieu de la Bible, tu te dis, OK, mais lui est parfait, mais lui est juste, mais lui est droit. Puis je vous le dis, ça fait partie du processus pour devenir chrétien. Tu réalises que toi, tu ne l'es pas. Et donc, je pourrais imaginer que Dieu vient avec sa lumière, puis tout ce qu'il fait, c'est qu'il expose ma pauvreté, mon péché, ma misère. Hein, la lumière, ça peut servir à ça. Je vous dis, tu sais, tu as un gros mal dedans, là, puis tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu as une espèce d'abcès, une infection là-dedans. Puis là, le dentiste vient avec ses gros spots, puis il met ça au-dessus de ta bouche, puis il dit, « Oh! » Ça peut s'arrêter là. Ça pourrait s'arrêter là. Mais quand tu vas chez le médecin, puis que le médecin t'a fait passer des examens, puis là, tu reçois un appel du secrétaire ou de la secrétaire du médecin qui dit, bien, docteur X désire vous voir. Puis là, tu rentres. Tu veux qu'il te dise, j'ai deux nouvelles pour toi. Une mauvaise, puis une bonne. Tu veux pas qu'il te dise, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Parce que ça serait la lumière qui ferait juste exposer un problème. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Puis on s'arrête là. Non, tu veux qu'il y ait deux nouvelles. Tu veux que la lumière qui vient, que ce soit des examens, que ce soit un dentiste qui dise « Wow! » Problème. Maintenant, on a une solution. Et vois-tu, je reviens à mon illustration de ma petite marche en forêt la nuit. Si Dieu vient me rejoindre dans la nuit, il ne vient pas juste me montrer que je suis perdu. Il vient me rejoindre dans la nuit, puis ensuite il dit, « Suis-moi, on va sortir d'ici. » On va sortir d'ici. Et ce que je vois dans le passage ici, c'est que Dieu conduit ces gens-là qui étaient dans les ténèbres dans la joie. Le but de Dieu, en t'exposant qui tu es, en te montrant que tu n'es peut-être pas aussi beau puis aussi hot que tu pensais, puis finalement, tu es peut-être vraiment un pécheur. Puis il y a peut-être des choses qui sont honteuses dans ce qu'on est par nature. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de nous humilier avec notre faiblesse puis avec notre pauvreté. Regarde ça comment tu n'es pas bon. Non, Christ est venu sur la terre pour nous conduire dans la joie. Et c'est ça que je vois dans le passage. Il est conduit dans la joie. Il dit, « Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. » Et là, j'aimerais dire à ceux qui disent, « Ouais, mais Yannick, je connais ça, ça fait 25 ans que je suis chrétien. » Vous savez, c'est quoi la tentation pour un chrétien? C'est que je découvre le vrai sens de Noël, je sais que la lumière vient de Dieu et je sais que la joie se trouve auprès de Dieu. Mais je vais m'éloigner ensuite. Regardez ce qu'il dit dans le passage. « Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi. » Lorsque Dieu vient nous rejoindre dans nos ténèbres et qu'il nous fait découvrir ce que Jésus est venu faire sur la terre, il nous conduit dans la joie dans sa présence. Alors, je m'adresse à ceux qui sont chrétiens, des fois depuis longue date. Et vous savez que la joie et la vérité se trouvent en Dieu. C'est lui qui nous amène sa lumière et sa grâce. Mais des fois, les chrétiens, on dit au Seigneur, « Merci, maintenant je vais retourner dans mes petits coins sombres. Il y avait quand même des petits plaisirs dans ce coin-là. Puis tu réalises à un certain moment donné que ben, ça a beau être trippant, tu n'as pas la joie du salut qui est là. Tu n'as pas la joie qui se trouve dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu fait entrer sa lumière dans ta vie, lorsqu'il fait entrer la grâce, lorsqu'il te fait connaître Jésus-Christ, ce n'est pas simplement pour exposer ta misère, c'est pour te conduire dans la joie devant lui. Dans sa présence. Et peut-être que tu as perdu la joie de ton salut parce qu'après avoir connu Jésus-Christ, tu es retourné dans tes petits coins sombres dans ta vie pour aller chercher la joie ailleurs que dans sa présence. Mais c'est dans la présence de Dieu que nous avons la vraie joie. Et qu'est-ce que je veux dire par présence? C'est dans une relation quotidienne avec Dieu que ça se vit. Simplement. Puis des fois, ben, c'est malaisant parce que j'ai péché. Je n'ai pas le goût d'aller vers Dieu. Mais je vais m'approcher de la lumière pour qu'il expose les choses dans ma vie et ça va me rappeler la grâce en Jésus-Christ. Je vais le confesser au Seigneur et je vais retrouver la joie de mon salut. Alors peut-être que tu as perdu cette joie-là parce que tu as oublié que la vraie joie de l'Évangile se trouve dans la présence de Dieu. Maintenant, je termine avec ceci. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de la lumière qui vient dans le monde ou de la grâce de Dieu qui vient nous visiter? Mais concrètement, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est annoncé 400 ans avant sa venue dans ce passage-là de la Bible. C'est lui qui nous était annoncé afin qu'on puisse le découvrir. Cette grâce, cette lumière, c'est Jésus-Christ qui vient briller dans nos cœurs. Voyez-vous, dans Ésaïe 9, ben, il y a Ésaïe 9, 5, un petit peu plus loin, on l'a lu tout à l'heure, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Avant la venue de Jésus-Christ, personne n'était capable de comprendre vraiment de quoi y en retourner ici. Un enfant nous est né, qu'on va appeler Prince de la paix, Père éternel, Dieu puissant. Comment Dieu peut-il être un enfant, lui le Créateur de la terre? L'incarnation de Dieu, les Juifs n'avaient pas la révélation de Jésus-Christ pour l'imaginer. Il a fallu que Jésus vienne et qu'en le voyant, en l'entendant parler, réalise, mais c'est la parole de Dieu qui sort de sa bouche pour éventuellement comprendre que c'est de lui dont il était question. La lumière qui vient dans ce monde, c'est ça qu'on célèbre à Noël. C'est Dieu invisible qui s'est incarné, qui s'est fait un homme, qui est devenu un être humain pour venir nous éclairer dans nos ténèbres. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est venu. Et c'est pour ça que les chrétiens célèbrent ça. J'ai envie de vous dire qu'à notre époque, dans notre culture en Occident, les gens autour de nous ont besoin plus que jamais qu'on leur raconte l'histoire de Noël. Et pour certains, ce sera un mythe, ce sera une histoire. Mais si nous savons, parce que nous avons expérimenté la lumière de Dieu qui est venue dans nos cœurs, dans notre âme, nous allons raconter cette histoire-là, pas comme l'histoire du Père Noël. On va raconter cette histoire-là comme celle qui a bouleversé nos vies, qui nous a conduits dans la joie, dans la présence de Dieu. Cette lumière que Christ donne vient non seulement dans le monde, mais elle vient dans nos cœurs. Jésus est non seulement devenu un être humain, mais ce qu'il a fait en mourant sur la croix pour nos péchés, puis en ressuscitant d'entre les morts, lorsque j'y crois, et c'est cette lumière-là, cette grâce-là qui rentre dans mon cœur, dans mon âme. On lit dans 2 Pierre, dans le Nouveau Testament, au chapitre 1, versets 16 à 19, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Pierre est en train d'évoquer un moment qu'il a vécu lorsque Jésus était sur la terre avec eux. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Cette étoile du matin, c'est Christ qui vient briller dans nos cœurs. On lit dans 2 Corinthiens 4, versets 5 et 6, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Si tu as cru en Jésus-Christ comme moi, cette lumière qui est venue dans le monde, Jésus, ne s'est pas simplement incarné pour marcher parmi les hommes, mais elle est venue dans ton cœur, dans ton âme. Puis en fait, Jésus va tellement loin qu'il dit que si tu crois en Jésus-Christ, à présent tu portes maintenant cette lumière en toi. Elle n'était pas en toi. Elle ne vient pas de toi. Elle est venue te visiter du ciel. Mais elle est venue résider en toi. Et Jésus va dire à ses disciples qui croient en lui, « Vous êtes la lumière du monde. » Pas parce qu'on est meilleur que les autres, parce que Dieu nous a montré nos ténèbres, est venu nous rejoindre au fond de cette forêt sombre. Il est venu nous rejoindre pour nous conduire à l'extérieur de nos ténèbres. Et maintenant, nous portons cette lumière-là. Et c'est ça qu'on célèbre à Noël. Je vais inviter la chorale à venir prendre place alors qu'on va chanter ensemble puis on va célébrer la gloire de Jésus-Christ. Dieu fait homme qui est venu nous conduire dans la lumière. Ésaïe 9, versets 1 et 2, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, pensez-y. Quelques Juifs, une toute petite nation connaissaient Dieu. Puis maintenant, des millions et des millions de chrétiens vont célébrer partout sur la terre la naissance de Jésus-Christ dans quelques jours. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse. » Frères et sœurs, qu'on puisse briller de tous nos feux, même dans cette période de pandémie-là. Que la joie qui nous habite de connaître la vérité sur Jésus-Christ nous remplisse de joie, nous remplisse d'amour. Qu'on puisse aller dans, dans le respect des mesures sanitaires, mais qu'on puisse aller vers les nôtres, aller vers nos proches et leur apporter ce message-là. Certains n'y verront qu'une fable. C'est pas grave, tu es en train de semer la lumière. Et Dieu peut venir les visiter. Dans leurs ténèbres à eux, dans des moments de fin de soirée, de longue veille où tu commences à repasser ta vie devant tes yeux, puis tu dis, finalement, j'ai des coins sombres. Et peut-être que la réponse ne se trouve pas seulement en moi. Peut-être que j'ai besoin d'être visité par celui qui est venu visiter les hommes. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous venons dans ta sainte présence pour te célébrer, Seigneur, pour venir t'adorer, pour venir te dire combien nous sommes reconnaissants de ce que tu te sois incarné, Seigneur. Seigneur, on va célébrer dans quelques jours ta naissance. On va célébrer le fait que le Dieu invisible est devenu parfaitement visible. Tu es devenu un être humain comme nous, Seigneur. Et les gens qui t'ont côtoyé ne saisissaient pas, ne comprenaient pas, n'arrivaient pas à expliquer tout ce qui sortait de ta bouche, les miracles que tu faisais, la sagesse que tu portais, l'amour divin que tu incarnais parfaitement. Et cet amour, cette grâce s'est manifesté de manière ultime à la croix, Seigneur. Tu es mort sur la croix pour nos péchés, afin que nous puissions être sauvés de nos propres ténèbres. Seigneur, tu le sais, il y a de cela bien des années, c'est dans cette période de Noël, cette période des fêtes, que ta lumière est entrée dans mon âme, dans ma vie, Seigneur. Et que j'ai accepté d'être conduit par toi hors des ténèbres de mon cœur. Je te prie, Seigneur, de nous donner de célébrer Noël cette année dans cet esprit de reconnaissance, de célébration, de ce que tu n'as pas abandonné les hommes, Seigneur. Tu es très loin d'avoir abandonné les hommes, tu les as aimés. Et je te prie, Seigneur, de venir parler à des millions d'hommes et de femmes sur la terre dans cette période de Noël, Seigneur. Et dans ta bonté, sers-toi de nous pour raconter à nos enfants, raconter à nos amis, raconter à nos voisins le véritable sens de Noël. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.